BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Comme chaque matin, c'est BFM Patrimoine qui à 10h vous accueille. On ouvre nos portes pour 2 heures d'expertise en ce jeudi 16 mars 2023. Le jour d'après, on va dire, le coup de tabac sur les valeurs bancaires. Que faut-il en penser? On va consacrer largement du temps à toutes ces questions-là, jour de BCE également. Mais avant de plonger des deux pieds dans cette actualité économique et financière, toute l'actu éco avec Faiza Younzi.
BFM Business, l'info éco, Faiza Younzi.
L'heure de vérité pour la réforme des retraites, vote final en ce moment même au Sénat. Emmanuel Macron réunit ce matin les chefs de parti de la majorité au lendemain de la réunion de la commission mixte paritaire qui a abouti à un compromis, texte qui doit être soumis à l'Assemblée nationale cet après-midi. Un vote jugé très risqué par Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat. Le président de la République doit trancher, soumettre le texte au vote cet après-midi ou bien engager l'article 49.3. L'action Crédit Suisse remonte après les mesures annoncées par les autorités helvétiques dans la nuit. La Banque Nationale Suisse lui accorde un emprunt de 50 milliards d'euros. Elle a également rassuré les marchés en affirmant que Crédit Suisse répondait à toutes les exigences en matière de capital et de liquidité. Hier, sa valeur en bourse a dégringolé. Son action a touché un plus bas historique, entraînant dans sa chute tout le secteur bancaire en Europe. Et c'est dans ce contexte mouvementé que la BCE réunit ses gouverneurs. Elle doit annoncer tout à l'heure ses mesures de politique monétaire. Nous les suivons en direct avec notre édition spéciale dès 14h avec Aude Kersulet qui sera en direct de Francfort. L'INSEE a revu ses prévisions de croissance à la baisse. Elle sera modeste au premier semestre en France. Le PIB devra enregistrer une hausse de 0,1% entre janvier et mars, puis de 0,2% sur les 3 mois suivants. La consommation des ménages est toujours plombée par l'inflation, notamment sur les produits alimentaires. Elle est actuellement de 6,3%. Elle devrait ralentir autour de 5% en juin. Le ton monte entre Pékin et Washington au sujet de TikTok. La Chine réagit à l'ultimatum des États-Unis et leur demande de cesser les attaques qu'elle juge injustifiées contre l'application. La Maison-Blanche a demandé à ByteDance, la maison mère de TikTok, de vendre l'application pour des raisons de sécurité nationale, condition sine qua non pour qu'elle reste autorisée aux États-Unis. Le groupe canadien Couche-Tard revient dans l'actualité. Il va racheter pour plus de 3 milliards d'euros d'actifs de Total Energy en Europe. L'opération concerne les magasins de proximité adossés aux stations-service en Allemagne, aux Pays-Bas, ainsi qu'une participation majoritaire en Belgique et au Luxembourg. Et on termine avec Air France KLM qui a remboursé l'intégralité de son PGE. La compagnie aérienne, de nouveau bénéficiaire après des pertes records, a procédé à un dernier versement de 2,5 milliards d'euros. Elle solde son prêt qui s'élevait à 4 milliards.
Merci beaucoup Faiza. On se retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre cette actualité économique et nous tout de suite direction la Bourse de Paris.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Bonjour Antoine Larigauderie.
Bonjour Cédric Decoeur.
Après ce coup de tabac hier, à partir de la mi-séance, hein, on s'était eu juste avant la clôture de BFM Patrimoine hier midi. Après le coup de tabac d'hier après-midi, on reprend un peu ses esprits.
Ça va mieux, on rebondit, ça reste quand même un rebond assez poussif, on va dire, plus 0,9% pour le CAC 40, 6 949 points. On était à 7000 hein, quand même à l'ouverture, on avait une hausse bien plus décidée d'un petit peu plus d'1%. Preuve que les marchés restent quand même sur leur garde et restent quand même passablement échaudés par ce qui s'est passé ces derniers jours. On rappelle qu'on a perdu quand même 6% en 5 séances, qu'on a effacé une bonne partie de nos gains annuels et que cette histoire autour de Crédit Suisse jette un petit peu de tension autour de l'ensemble du secteur bancaire. Encore une fois, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec SVB, mais il est évident que quand on commence à avoir le système financier qui subit un certain nombre de crispations dues à des faillites bancaires ou à l'insolvabilité de certains intervenants, les plus fragiles en pâtissent. Et Crédit Suisse, qui était déjà fragilisé depuis des semaines, là, pour le coup, ça a été le coup de grâce. Et il a bien fallu sortir un peu les cadavres. palabre des placards, c'est ce qui s'est passé. Bon, la décision de la Banque nationale suisse de lui accorder 50 milliards de francs de liquidités pour assainir son activité. Tout cela, évidemment, a provoqué une très très forte hausse du Crédit Suisse, d'ailleurs la plus forte de son histoire, hein, plus 40% à l'ouverture de la bourse de Zurich. Le Crédit Suisse qui a d'ailleurs aussi annoncé qu'il allait refinancer une partie de certaines de ses obligations. Qui paie ses dettes s'enrichit, ça c'est plutôt en faveur des marchés, et ça explique ce rebond général des valeurs financières. On a AXA qui accélère d'1,9% à 26,80€, on a BNP Paribas plus 1,67€ à 52,90€, Crédit Agricole plus 1,17€ à 10,34€. Un autre soutien important du CAC 40 aujourd'hui, c'est Total, mais qui a souffert ces derniers temps. Pourquoi? Parce que c'est complètement passé à l'as, mais les prix du pétrole, quand même, en quelques jours, ont sacrément reculé. On avait fini la semaine quand même du côté des 80$, là on n'est plus qu'à 74 sur le Brent de Mer du Nord, ça fait quand même une sacrée différence. Et Total, bon, là reprend 1,4% à 54,02€, mais cette faiblesse des prix du pétrole, va peut-être quand même falloir observer ça de près. Du côté des titres à la baisse, à noter Téléperformance qui perd 1,57% à 219,70€. Renault moins 0,9, 36,33. On a Thales moins 0,63% à 126,95€. Et Dassault Systèmes moins 0,45 à 36,39€. Le CAC donc en rebond, mais ça paraît un petit peu fragile tout ça. Plus 0,7%. 6 934 points. Et puis l'euro a pris un sacré coup hier, hein, avec les annonces du Crédit Suisse. On était largement au-delà d'1,07. Et là, on est à peine à 1,0610.
Antoine Larigauderie, puis tout cela bien évidemment sera à regarder aussi à travers du prisme de la Banque Centrale Européenne, et on file dans un instant à Francfort pour trouver Aude Kersulec qui nous attend et qui suivra pour BFM Business cette réunion de la Banque Centrale Européenne. Mais auparavant, on reste connecté à ce monde action. Merci Antoine Larigauderie.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Et c'est Idemid Caps qui nous ouvre ses portes ce matin. On y retrouve Robin Leclerc qui nous y attend. Bonjour Robin.
Ah non, c'est Sébastien Féjean, mais bon, ça
fait comme
si... Bah, comment allez-vous?
Pas de souci, Sébastien Féjean. Ça marche aussi et c'est toujours chez Idemid Caps, donc il n'y a pas de problème. Vous nous proposez de jeter un œil ce matin sur Jacquet Métal.
Absolument, oui, parce qu'en fait, Jacquet a publié hier ses résultats annuels. Donc vous savez, Jacquet, on a parlé à plusieurs fois à l'antenne, une société qui est spécialisée dans la distribution d'aciers spéciaux. Alors, les aciers spéciaux, vous en avez trois sortes. Vous avez donc des aciers inoxydables qui sont utilisés dans la pétrochimie, la chimie et évidemment tout ce qui est transition énergétique. Ensuite, vous avez des aciers inoxydables longs, donc qui ont évidemment les mêmes applications. Et enfin, des aciers mécaniques qui sont notamment utilisés dans l'armement, dans la construction de machines-outils et plein d'applications industrielles. Donc, Jacquet a publié des résultats historiques hier, comme on l'attendait. Hein. Bon, c'était vraiment des résultats qui étaient assez élevés. Et en fait, on a eu une marge opérationnelle qui a culminé à près de 9,8% sur l'exercice, qui est évidemment un niveau qui n'avait jamais été atteint par le groupe.
Voilà donc quelques idées de base sur ce dossier Jacquet Métal. Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre sur le groupe qui est quand même assez actif, hein?
Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc on a bien vu que le groupe avait bénéficié évidemment de la très forte hausse des prix en 2022, qui a été l'essentiel de la croissance, puisqu'on a une légère baisse en volume, mais encore une fois une très forte appréciation donc de ces aciers spéciaux. Et ensuite, on a eu également plutôt des nouvelles intéressantes du côté de la croissance externe, puisqu'on sait que Jacquet historiquement est toujours très attentif au prix d'acquisition et surtout au moment où il achète des entreprises. Et là, il vient de confirmer le rachat d'un périmètre de centre de distribution en Europe centrale, donc Tchéquie, Pologne, Slovaquie, Hongrie et Lituanie, ainsi que des pays baltes, pour un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros et également une petite activité en Italie. Donc tout ça nous fait dire que comme l'entreprise est plutôt en anticipation de ce qui se passe, certes ils ont communiqué hier sur des prix qui allaient fortement baisser, puisque vous avez eu une très forte augmentation depuis deux ans de près de 80%, mais en même temps ça veut dire que les prix ne devraient pas s'effondrer non plus, et c'est un peu ce qu'on a vu sur le T4.
Voilà donc pour cette activité de croissance. Qu'est-ce qu'on peut dire des chiffres de l'activité du groupe?
Alors là, évidemment, compte tenu évidemment de ce qu'on a eu comme très très forte croissance liée au prix, bah, ce qui a marché à la hausse va marcher à la baisse. Hein, c'est-à-dire que vous allez avoir évidemment une baisse des prix qui va être continue sur l'ensemble de l'exercice 2023. Donc évidemment, compte tenu des effets de base qui sont très élevés, on va avoir évidemment des trimestres qui vont enregistrer des baisses importantes. Nous, on table sur l'ordre de 20% de baisse pour l'ensemble de l'exercice. Mais ce qui est important, c'est qu'en parallèle, le groupe va générer beaucoup de cash, puisque évidemment, c'est le modèle classique d'un distributeur. Il consomme du cash lorsque évidemment la croissance est là. Et c'est vrai que 2022 a été assez particulière pour ça, puisque Jacquet n'a pas consommé de cash du tout. Mais l'an prochain, évidemment, puisqu'il va arrêter d'acheter, il va surtout vendre ses stocks. Et donc, normalement, on devrait avoir une très forte génération. Donc, on est quand même relativement à l'aise avec la société.
Bon, si on regarde tout ça, Sébastien, et que on le met en parallèle et que on jette un œil sur la valo, sur le parcours du titre, qu'est-ce qu'on peut se dire ?
La valorisation, en fait, reste encore inférieure à 40%, de 40% à ses fonds propres. Donc, ça veut dire que, en fait, si demain vous mettez la boîte en faillite, ce qui est évidemment pas le cas, puisqu'elle a une très solide position de cash. Hein, encore une fois, ils ont généré du cash durant toutes les années qui étaient compliquées, comme 2020. L'an dernier, ils ont consommé évidemment moins que prévu. Mais on est vraiment sur une société qui est très solide, avec des stocks qui représentent 760 millions d'euros à fin 2022, qui sont donc dans les entrepôts. Et vous avez une valeur d'entreprise de 680 millions d'euros. Ça veut dire que vous avez une décote de 10% par rapport donc à ce montant de stock. Et vous avez évidemment, encore une fois, des fonds propres qui sont extrêmement tangibles. Donc, nous, on reste acheteurs, malgré évidemment, encore une fois, des trimestres qui s'annoncent compliqués, avec un objectif de cours de 26 euros.
Donc, ça veut dire qu'il faudra quand même être patient.
Ah ben évidemment, c'est évidemment, on va dire, pour ceux qui veulent préparer leur retraite de manière sereine, on peut dire que voilà, Jacquet est un excellent. Et puis je tiens à rappeler également que Jacquet distribue du dividende et au cours actuel, c'est un rendement de plus de 5%, me semble-t-il.
Sébastien Féjean et cet éclairage proposé depuis des Midcap sur Jacquet Métal. Très bonne journée sur ce marché, peut-être un petit peu moins tendu qu'il ne l'était hier après-midi. On grignote 0,66%, 6931 points pour le CAC. Et nous, tout de suite, on prend la direction de Francfort.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Francfort, où on retrouve Aude Kersulek. Bonjour Aude, merci d'être au rendez-vous pour cette journée estampillée Banque Centrale Européenne. Que peut faire Christine Lagarde aujourd'hui ? Est-il toujours question de hausse de taux ?
En tout cas, c'est vrai que cette réunion va prendre une toute autre tournure que ce à quoi on s'attendait encore il y a une semaine. On attend une position forte de la BCE, puisqu'à l'inflation vient s'ajouter le risque d'instabilité financière. Alors d'un côté, le premier problème, l'inflation, il est toujours là. La BCE nous martèle depuis des mois que son mandat, c'est une inflation à 2%. Or, on est toujours bien au-dessus, 8,5% pour le mois de février sur un an, l'inflation sous-jacente qui progresse même encore elle aussi, donc une inflation qui s'enracine au-delà de l'énergie. C'est pour ça qu'on monte les taux depuis juillet pour freiner la demande et la production de crédit, mais on a vu quand même que cette remontée rapide des taux, elle avait eu un impact sur certains secteurs de l'économie, notamment la tech. Donc il y a eu ces trois faillites de banques américaines la semaine dernière. Il y a cette semaine le Crédit Suisse qui est attaqué par les investisseurs alors que c'est une banque systémique. En fait, on n'est pas sûr finalement de pouvoir absorber ce choc financier et c'est là qu'on peut dire qu'on est en risque d'instabilité financière. Alors que va faire la BCE, parce que la stabilité financière, c'est une de ses prérogatives. Alors le Trésor américain avait réagi ce week-end après SVB en offrant un programme de liquidité aux banques. La BNS, hier soir, la Banque Nationale Suisse, a aussi offert son soutien au Crédit Suisse. Donc on attend aussi la Banque Centrale Européenne sur un soutien aux banques. Et puis elle va devoir choisir entre inflation et donc instabilité financière.
Justement, quelles sont les possibilités, Aude Kersulek, qui s'offrent à la BCE ? Quelles annonces sont attendues ?
Alors tout va être dans la communication pour rassurer. Alors rassurer sur la solidité des banques européennes, sur leur niveau de liquidité, leurs exigences en fonds propres. Les banques européennes en ont la BCE à la supervision. On imagine qu'hier, Christine Lagarde a passé une partie de sa journée avec les dirigeants de Crédit Suisse au téléphone et les autorités suisses aussi d'ailleurs. Donc on l'attendra sur son avis sur la santé de la banque suisse. Le but, c'est que la confiance ne s'érode pas, la confiance sur le marché interbancaire, quand les banques se prêtent entre elles. C'est le véritable système sanguin de l'économie et ça, il ne faut pas que ça s'arrête. En ce qui concerne la remontée des taux, là, c'est un gros débat. On imagine que c'est un gros débat en ce moment hein, au sein du Conseil des gouverneurs parce que Christine Lagarde nous avait préannoncé à la réunion de février pour cette réunion du mois de mars 50 points de base de hausse. C'était une intention, hein, c'était pas un engagement ferme. Et au regard de ce qui se passe depuis ces derniers jours, des turbulences dans la sphère financière, on a quand même des voix qui s'élèvent pour nous dire que il faudrait peut-être faire une hausse moins importante, 25 points de base ou même une pause hein, dans le cycle de hausse de taux. C'est notamment le cas de Lorenzo Binismaghi, qui est un ancien banquier central italien, mais qui est aussi le président de la Société Générale. Alors il nous dit qu'il faut quand même que ce mouvement, quel qu'il soit, soit expliqué par Christine Lagarde. Et c'est surtout l'objectif hein, de la réunion de cet après-midi, un vrai exercice de communication.
C'est vrai qu'on parle énormément de ces banques, de ces questions de liquidité. Aujourd'hui, quels sont les risques autres qui pèsent sur les banques? Qu'est-ce qu'on sait finalement de leur niveau de liquidité?
Oui, alors le risque d'instabilité financière, déjà de l'instabilité financière, quand on en parle, il faut c'est ne plus savoir encaisser les chocs de l'économie. La hausse rapide hein, des taux d'intérêt a été un choc pour l'économie parce qu'elle a entraîné la baisse des portefeuilles obligataires. Alors les banques, les gestionnaires d'actifs détiennent beaucoup d'obligations. On en retrouve aussi beaucoup dans les assurances vie. Selon les normes européennes, ces obligations, elles doivent être comptabilisées à leur valeur de marché. Donc on prend en compte les plus-values, les moins-values latentes sur les portefeuilles, ce qui diffère des banques comme SVB où là les obligations étaient encore comptées au pair. Donc on n'est pas sur le même niveau d'exigence que les petites banques régionales hein, dont on parle aux États-Unis. Mais ce qui est inquiétant, c'est d'ailleurs que selon une note d'analyste, je cite Morningstar, les banques américaines auraient 600 milliards de dollars de pertes latentes hein, sur leur portefeuille. Feuille obligataire. Et ça, c'est évidemment un risque à prendre en compte parce qu'il faudra l'absorber si jamais ces moins-values se réalisent. Surtout qu'on a vu que des banques comme SVB n'étaient pas forcément couvertes contre le risque de taux. Elles n'avaient pas forcément souscrit aux instruments financiers adéquats, les interest rate swap, ou alors elles les avaient vendues. Ça fait partie des erreurs humaines aussi qu'on trouve dans le cadre d'une de crise. En Europe, en tout cas, toujours selon Morningstar, compte tenu du niveau de du matelas de liquidité des banques européennes, il est peu plausible qu'elles aient à brader leurs actifs obligataires. C'est-à-dire qu'on a quand même un matelas de liquidité confortable et qu'on pourra subvenir à nos besoins si jamais il y a des vagues de retrait. En moyenne, 14% des actifs des banques centrales, des banques européennes sont placés en dépôt à la banque centrale. Et puis un dernier risque, c'est celui de la rapidité avec laquelle SVB est tombé en bankrun hein, la semaine dernière. Tout ça à cause déjà du système de banque digitale qui a permis ces retraits rapides et puis aussi des réseaux sociaux parce qu'en fait les entreprises se sont quand même donné le mot très rapidement. C'est pas habituel et là ça peut mettre la liquidité à rude épreuve. Il faudra voir comment répond Christine Lagarde cet après-midi à ces questions, à ces nouvelles épreuves que les banques centrales affrontent.
Merci beaucoup. Aude Kersulet, qu'on vous retrouve hein, tout au long de la journée, bien évidemment, pour suivre cette réunion de la Banque Centrale Européenne. Le marché parisien, lui, grignote du terrain, 0,66% de mieux, 6931 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Bonjour Marie-Cœur de Roy.
Bonjour Cédric.
Dans un instant, on reçoit Lionel Benamou pour la centrale des SCPI. Mais d'abord, actu oblige, vous avez passé quelques coups de fil pour essayer de prendre le pouls chez tous nos acteurs du financement immobilier. Voilà, cette espèce de coup de tabac qui est passé sur le secteur bancaire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Enfin d'abord, est-ce que ça peut vouloir dire quelque chose pour... notre financement immobilier.
Oui et non, ils sont plutôt extrêmement sereins. Bon. Hein, et je pense que c'est un peu notre ligne éditoriale sur l'antenne de BFM Business, genre on se calme, on respire un tout petit peu. Et effectivement, à chaque fois on se pose la question de savoir, parce que c'est quand même les banques qui nous distribuent le crédit en bout de chaîne. Est-ce que ça peut avoir une influence? Alors en fait, ce qui va être regardé aujourd'hui, ça va être davantage l'attitude de la BCE. On n'arrête pas de le dire, on avait haute depuis Francfort, mais effectivement, ça va être le sujet. Ça va dire... quelle va être la décision de la Banque Centrale Européenne? Alors évidemment, si c'est zéro, tout le monde va s'inquiéter, voilà. On est d'accord. Mais enfin, côté crédit immobilier, on va se dire, super, hein, les taux vont pouvoir arrêter d'augmenter tels qu'ils augmentent aujourd'hui. C'est-à-dire on va avoir une petite accalmie du côté de la hausse des taux d'intérêt sur le crédit immobilier. Zéro, on l'espère pas non plus compte tenu des effets collatéraux, on est d'accord. Donc là, plutôt, le délire, c'est est-ce que ça pourrait être 25 points de base? Là, pour l'instant, ça pourrait être très intéressant. En fait, finalement, ce serait une bonne nouvelle, encore une fois, pour notre crédit immobilier, puisqu'on est à la fois loin d'inquiéter tous les marchés et le secteur bancaire, mais en même temps, on a quand même effectivement la possibilité d'une accalmie sur la hausse des taux d'intérêt. Et puis après, il y a le scénario qui était le plus probable jusque-là, qui était de 50 points de base. Alors là, on me dit, alors attention, moi, je suis pas une grande spécialiste, mais on a de fait une courbe des taux inversée. Oui. Et ça, ce qu'on m'a expliqué, c'est que concrètement, les économistes ont théorisé là-dessus pour dire qu'à chaque fois qu'on a eu ça, dans les 1 an et demi, 2 ans qui suivaient, on était en récession. Et en fait, finalement, ça pourrait être, là encore, une plutôt pas trop mauvaise nouvelle pour le secteur de l'immobilier, parce que ça pourrait accélérer là la baisse des prix de l'immobilier. Et donc, finalement, on retomberait un tout petit peu sur nos pattes. Donc, j'ai envie de dire, ces turbulences bancaires, et quelle que soit la décision de la Banque Centrale Européenne, finalement, le crédit immobilier pourrait s'en sortir plutôt bien, voire mieux qu'avant. Juste quand même un mot, mais même si c'est évidemment pas du tout envisagé aujourd'hui, mais si... pour X ou Y raison, la crise devait prendre de l'ampleur, ou on pourrait parler de crise en tout cas, là effectivement le seul risque, et c'est un vrai risque, c'est quelles seront les attitudes des régulateurs pour les banques, les fonds propres qu'elles vont devoir mettre à côté des crédits, et donc auquel cas effectivement se retrouver dans une situation où ça pourrait freiner la distribution de crédit, mais on est dans le scénario
le plus probable.
Pour le moment c'est limite optimiste,
ouais.
Plus que calme, optimiste.
On reçoit donc Lionel Benamou. Bonjour.
Bonjour
Lionel, merci d'être avec nous, associé fondateur de la centrale des SCPI. Alors ces SCPI, on est quasiment mi-fin mars, ça peut peut-être nous donner l'occasion de faire un bilan de ce premier trimestre. La collecte est au rendez-vous?
Voilà, on a déjà les premières remontées des sociétés de gestion, donc le premier trimestre 2020. 3 devrait être peu ou prou faire jeu égal avec le premier trimestre 2022 qui avait collecté 2,6 milliards d'euros. Alors, petit indicateur, 2,6 milliards d'euros, c'était le montant total de la collecte 2013. Donc ce qui démontre déjà la croissance spectaculaire du placement. Et à la centrale des SCPI, on a un autre indicateur maison et l'un de mes confrères me l'a également confirmé, c'est qu'on voit les back-office des sociétés de gestion depuis ce début d'année grossir à vue d'œil. Le back-office, c'est ce qui va traiter administrativement les dossiers des épargnants. Ça veut dire que les sociétés de gestion ont besoin de forces vives, recrutent, ça veut dire que la collecte est au rendez-vous, et en plus, qu'elles sont relativement optimistes sur leurs résultats futurs, sinon elles ne procéderaient pas à de nouvelles embauches.
Comment vous expliquez, parce que, je vais être un peu cynique, mais est-ce que c'est parce que c'est plus compliqué d'acheter du vrai immobilier et que donc du coup on s'oriente vers des SCPI parce qu'on dilue le risque en prenant un petit peu par-ci par-là? Comment vous expliquez le succès qui perdure des SCPI aujourd'hui?
Oui, alors. Clairement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une appréhension à acheter des appartements locatifs traditionnels, comme on le faisait auparavant. Pourquoi ? Parce que on a eu la hausse des taxes foncières, on a une gestion des locataires qui est souvent chronophage et anxiogène, on a le plafonnement des loyers dans les grandes villes, et est venu se rajouter un nouvel écueil. Je regardais une émission que vous aviez faite, je crois, le mois dernier, c'est le diagnostic énergétique. Alors, c'est tout à fait louable, puisqu'effectivement, ça permet de préserver l'environnement et de...
Et de mieux loger
le locataire. Là où le bât blesse, c'est que beaucoup de propriétaires bailleurs n'ont pas les moyens de faire les travaux. Et même quand on fait les travaux, on n'est pas sûr du résultat. Donc finalement, on va dépenser 10, 15 000 euros, 20 000 euros. Et peut-être qu'on ne va pas avoir une note qui vont qui va permettre la mise en location, oui. Parce qu'en fait, les contours sont encore un peu flous au niveau des résultats.
Bon, ça ne simplifie pas les choses. Malgré tout, vous le dites, ça continue de collecter, etc. Et donc, on en revient toujours à la question qu'on pose régulièrement quand on reçoit des spécialistes de ces SCPI. Est-ce que ce flux ne va pas un peu nuire au rendement ? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un petit risque sur la SCPI à ce niveau-là ?
Oui, effectivement, quand on collecte beaucoup d'argent, il faut l'investir à bon escient. Donc c'est vrai que les SCPI historiquement étaient investies sur le marché du bureau et du commerce. Depuis quelques années, elles ont...
Parce qu'il n'est pas totalement extensible ce marché-là.
Mais en fait, depuis quelques années, en fait, elles étaient cantonnées au marché du bureau et du commerce en France. Maintenant, elles investissent sur la zone euro et hors zone euro. Donc plus on a un champ de recherche large et vaste, plus on peut sourcer des opportunités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elles investissent maintenant sur d'autres thématiques, comme la logistique pour faire face au boom du e-commerce, la santé pour accompagner le vieillissement de la population, l'hôtellerie qui connaît un fort rebond depuis l'après-Covid, et même aujourd'hui, une SCPI en attente, je crois, de son visa AMF, pour investir dans les crèches. Donc d'accord. Ça suit vraiment un peu l'évolution sociétale. Mais... Et c'est vrai que les crèches, bon, moi qui suis jeune papa, entre guillemets, hein, puisque j'ai une fille de 2 ans et demi, c'est vrai qu'une fois qu'elle naît, on trouve le prénom. Mais la deuxième question qui se pose, c'est le moyen de garde.
La poussette aussi même.
On va pas tout faire.
Voilà. Donc c'est vrai que les SCPI, c'est un produit vivant en fait. Il est pas figé, il évolue. En même temps que la société.
Oui, mais moi je reviens sur ce que disait Cédric. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même sur les rendements ? Parce que l'un des arguments des spécialistes des SCPI, c'était toujours de nous dire effectivement, c'est plus facile, plus sécure, si vous voulez, vous pouvez diversifier, le ticket d'entrée est plus bas, machin, mais il y a aussi le rendement. Alors, effectivement, quand l'inflation était à zéro et que le livret A rapportait rien, ok, mais là qu'on a un livret A qui passe à 3%, que l'inflation augmente et qu'on est quoi, autour de 4,3, 4,4% de rendement moyen sur des SCPI, est-ce que ça perd pas quand même son intérêt ?
Alors, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça reste de l'immobilier, les SCPI. Et les loyers sont indexés en partie sur l'inflation. Donc, ce qui va protéger votre pouvoir d'achat. Ça, c'est en France. Mais il y a des pays où les loyers sont vraiment corrélés à l'inflation, comme l'Allemagne. Donc, aujourd'hui, effectivement, le rendement, il va suivre la hausse de l'inflation. Et ça, ça va protéger les épargnants.
Donc, vous êtes persuadé qu'il faut mieux investir.
Et c'est le moment, quoi.
Voilà.
Et c'est le moment parce que en plus, aujourd'hui, avec la hausse des taux d'intérêt, il y a des acteurs qui avaient l'habitude d'acheter à crédit, qui se sont retirés des marchés parce que le coût de l'argent est plus cher. Ce qui fait que les SCPI qui achètent au comptant ont beaucoup plus de latitude à négocier les prix, trouver des opportunités et sourcer des biens. Aujourd'hui, on voit passer des acquisitions proches des 8%, ce qui était impensable il y a encore quelques années.
Merci beaucoup Lionel Benhamou pour la centrale des SCPI ce matin au cœur de BFM Patrimoine. Merci Marie, à demain.
À demain.
Pour la vie IMO, dans un instant, nos traders ausculteront cette tendance. Que faut-il en penser après le coup de tabac d'hier? Quelles sont les résistances? Quels sont les supports? On les retrouve dans un instant. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Peut-être qu'aujourd'hui, plus que d'autres jours, c'est important d'avoir le regard croisé de nos deux traders pour comprendre un petit peu ce qu'il peut se passer ou ce qui s'est passé sur ces marchés. On retrouve donc deux d'entre eux, Jean-Louis Cussac qui nous attend chez Perceval Finance Conseil et Alexandre Baradez depuis IG. Bonjour messieurs et merci d'être au rendez-vous. Alors, Alexandre, comment doit-on appréhender les choses après le coup de tabac des dernières heures et pour le moment cette journée qui a plutôt bien démarré?
Oui, alors c'est déjà sur le mouvement qu'on observe depuis quelques jours, ce n'est pas une mauvaise chose d'un point de vue boursier, j'entends, hein, je ne dis pas d'un point de vue bancaire ou autre, mais d'un point de vue boursier, ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'on corrige enfin l'excès que nous voyons comme tel, en tout cas, d'une partie du rallye janvier-février qui s'était fait sur les marchés européens, dont le CAC, et qu'on n'avait pas vu sur la partie américaine, par exemple. Alors, on avait expliqué à l'époque que c'était des questions de typologie d'indices, de composition, d'effets de taux réels, etc. Peut-être, mais en tout cas, ça permet de dégonfler l'écart qu'il y avait avec une partie des marchés américains. On voyait aussi que les marchés asiatiques n'avaient pas suivi cette envolée-là. Donc, premier constat, c'est que déjà, enfin, on a une respiration de marché qui est cohérente par rapport à l'environnement. Voir des marchés qui atteignent des niveaux records alors que les banques centrales montent encore les taux. Et on s'attendait à ça. On disait, attention, le risque vient de là. Il vient des hausses de taux et le marché semble un peu trop confiant par rapport à ça, le marché européen. Donc, il est rattrapé par la réalité de ce qui est un redressement, un durcissement monétaire. À un moment donné, ça commence à craquer un petit peu. Là, ça arrive par le système bancaire. Et donc, le marché réagit. Donc, ça, c'est première chose. C'est une bonne nouvelle, notamment pour ceux qui avaient du cash, certains gérants ou autres, qui attendaient probablement des respirations pour rentrer une partie de leur cash. Et je pense que ce genre de respiration est mise à bon escient, justement, pour rentrer ce cash qui pouvait rester. Après, la question, c'est est-ce que c'est 6008 et puis on rebondit? Ça, personne n'a la réponse, évidemment, définitive et parfaite à ce stade. Mais toutefois, moi, je pense quand même qu'on peut considérer que la zone entre, c'est une zone un peu large, mais entre 6005 et 6008, pourquoi cette zone? Parce que c'est plein d'anciennes résistances, de rebonds intermédiaires de 2022, où c'était l'ancien sommet également, l'ancien sommet de décembre. Donc, il y a plein de niveaux techniques dans cette zone, 6005-6008. Et considérer qu'on puisse aller plus bas que cette zone, moi, je pense que c'est plutôt une zone d'accumulation, donc avant le prochain rallye. Donc, je ne sais pas si pour tout de suite, mais je pense que cette zone, un support sandwich importante, 6005-6008, c'est une zone attractive parce que je ne vois pas comment le marché peut dévisser complètement à partir de maintenant, sachant que ce que nous voyons actuellement, c'est une des conséquences de la normalisation des banques centrales. Alors certes, ce sont les éléments les plus fragiles qui tombent en premier, sectoriels, liés à la crypto, liés à la tech, et puis Crédit Suisse, hein, c'est un vieux problème d'une banque suisse qu'on traîne depuis 15 ans maintenant. Donc c'est ces premiers signes de craquement qui arrivent par les éléments les plus fragiles, mais que les banques centrales ne voudront pas voir se transmettre au reste des banques les plus solides malgré tout. Hein, donc à ce stade, ça reste des banques, on va dire, auxquelles on peut s'attendre à ce genre de réaction, mais il faut par contre s'assurer que le durcissement monétaire n'entraîne pas un coût, hein, le coût de la lutte contre l'inflation, hein, c'est un coût certain, il ne faut pas que le coût de cette lutte soit largement dépassé par des coûts liés à une déstabilisation du système bancaire et qui aurait des conséquences économiques avec un coût bien plus important. Donc c'est là que les banques centrales, normalement, doivent commencer à rentrer un peu dans le jeu en accordant leur message, en adaptant leur message à ce nouvel environnement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont renier les hausses de taux, puisque la garde cet après-midi, je ne pense pas qu'on n'ait pas de hausse de taux du tout. La question, c'est est-ce que c'est 25 ou 50 points de base? Et quel discours va accompagner ça? Pour la Fed, je pense qu'on est plus proche, par contre, de la fin. Je pense que la Fed, peut-être 25 points de base sur encore une réunion ou deux, peut-être 50 sur deux réunions bien étalées et distantes, peut-être, mais on est très proche de la fin des hausses de taux, je pense, pour la Fed. Donc, ceci est plutôt de nature, je pense, à amortir le choc qu'on a actuellement. Donc, voilà, donner un niveau pur intraday me paraît délicat dans l'environnement actuel, ça paraît un peu trop spéculatif, mais considérer par contre que le creux actuel est une bonne opportunité, dans pas trop longtemps, je pense que oui, et si on devait définir une zone de risque un peu maximale où le CAC puisse tomber, je pense que 6005-6008, voilà, c'est une zone qui devrait amortir le choc du CAC 40.
Lecture proposée par Alexandre Baradez. Jean-Louis Cussac, comment voyez-vous les choses? Je voyais faire un peu la moue quand je disais que ça avait plutôt pas mal commencé. Alors dites-nous pourquoi.
Le commencement, c'est quoi? C'est la première heure, c'est les premières 5 minutes. Et là, en l'occurrence, c'est les premières 5 minutes, c'est parti à la baisse. Et vous vous rendez compte, on a perdu 1,70 ou je ne sais plus combien, en quelques, quoi, même pas une heure, c'est énorme. Donc on a des volatilités fantastiques, on avait démarré en effet bien cette séance en reprise de 1,79% par rapport à la clôture, c'est vrai que c'était monté déjà un peu hier soir, et puis ça a dévalé la pente, on est passé de 7010 à 6898, on est même repassé sous les 6009 temporairement. Alors oui, c'est quand même extrêmement violent, on a 25... Cédric, 25 de volatilité implicite. Nous étions, il y a 8 jours, autour de 14, 13. On est à 25. La méfiance est tout de suite revenue violemment également. 850 millions d'échangés. Les bancaires ont démarré fort, elles font plus rien derrière. Elles ont rebaissé. On voit qu'il y a beaucoup de paniers. Hier, on avait un message fort, c'était les bancaires qui s'effondraient. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a même pas, si vous voulez, un marqueur puissant sur ce marché. C'est du panier, c'est de l'arbitrage, des mouvements extrêmement amplifié à l'approche de l'échéance par la gestion des deltas de position sur les options. On a beaucoup donc de régularité sur les valeurs du CAC 40. Le Bund stabilise, les bancaires donc rebondissent à peine. Le pétrole reste faible. Hier, il a perdu jusqu'à 7,5%. Il a repris 4,5%, stabilise ce matin. Alors, les avis sont très divergents sur le côté potentiellement systémique de cette crise bancaire. Sera-t-elle temporaire, durable? On ne sait pas. La résistance du système financier sera-t-il à la hauteur? Probablement oui. Est-ce que les banques centrales vont revoir leur plan? Probablement non, c'est un peu ce que disait aussi Alexandre. Puis après, moi je rajouterais, le message serait inquiétant si jamais les banques centrales revoyaient leur plan, d'une manière forte, hein, bien évidemment. L'ampleur de la baisse, alors oui, l'ampleur est cohérente. C'est-à-dire quand Alexandre dit bah oui, c'est cohérent. Ben oui, c'est cohérent. C'est vrai. Moi, je trouve aussi que c'est cohérent. Mais par contre, ce qui n'est pas cohérent, c'est la manière, parce que la manière de la manière dont la baisse a eu lieu, ben ça oblige quand même à réfléchir. Et la manière dont on perçoit les choses n'est plus la même. On a des risques supplémentaires. Alors on les additionne, hein, les risques, hein, géopolitiques, etc., économiques. Maintenant, on va se demander si évidemment la crise bancaire, si elle devait durer, pourrait impacter la dynamique économique. Enfin, les questions s'additionnent et les réponses, on les a toujours pas. Ce matin, on a adopté un biais vendeur. On est vendeur parce que on avait cassé 7080, parce qu'on avait cassé 6950. Donc, on a vendu sur 7003. On était positionné en première intention à 7037 et on reste vendeur. On cherche à vendre. Là, on a fait déjà donc un écart significatif. On garde un solde vendeur. On est extrêmement prudent. On y va tout doucement parce qu'on sait que des rebonds peuvent être extrêmement violents dans ce type de situation. Tous les algos vont tous dans le même sens au même moment. Et en face, les gestions, ils se demandent toujours est-ce qu'on y va ou pas, c'est pas évident. Les belles valeurs comme LVMH n'ont pas beaucoup baissé. Il y a du pétrole peut-être à aller chercher, la BNP aussi, etc. Voilà, c'est difficile de faire, en tout cas de prendre des décisions stratégiques importantes.
Merci beaucoup à tous les deux, donc Jean-Louis Cussac, Alexandre Baralez qui nous accompagnait ce matin. Jean-Louis depuis Perceval, on vous retrouve tout à l'heure à 11h30, Jean-Louis, et puis Alexandre depuis IG. Très bonne séance sur ce marché qui reste pour le moment en hausse pour 0,46%, 6917 points pour le CAC.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
Nouvelle secousse donc pour ce secteur bancaire. C'est la chute de Crédit Suisse, on l'a vécu quasiment en temps réel hier matin, qui a propagé la panique. Conséquence de SVB aux États-Unis?
Aucun rapport, c'est vraiment un hasard de calendrier. Enfin, il y a un élément qui sera un élément de conclusion. Tout le monde vit la hausse de taux, si vous voyez ce que je veux dire. Non, là, SVB, crise de liquidité liée à un retrait massif de clients. Crédit Suisse, c'est... le refus du premier actionnaire d'augmenter le capital pour une banque qui accumule les déboires depuis longtemps. Personne n'est tombé de sa chaise en découvrant hier que Crédit Suisse était une banque pleine de fragilité. Et donc, Saudi National Bank n'a pas voulu augmenter le capital, tandis qu'ils l'ont fait tout récemment. Donc, Crédit Suisse s'est tourné vers la banque centrale. Alors, elle a dit qu'elle empruntait 50 milliards de francs suisses. Ça fait en ce moment exactement le même montant en euros. Et la BNS, comme la Fed aux États-Unis, pas de problème, je serai là, je vais injecter la liquidité nécessaire. Donc, une fois de plus, la puissance publique est là pour adosser à des banques centrales pour éteindre les incendies.
Pourquoi ce Saoudien a refusé, alors qu'il avait réinvesti en banque.
Crédit Suisse, c'est vrai, ne cesse de collectionner les problèmes. Tout de même. Il y a eu cette grande affaire en 2019 qui a été une affaire d'espionnage par un ancien cadre de la banque qui a fini par rattraper le directeur général de l'époque, le franco-ivoirien Tidjane Thiam, qui démissionne en février 2020. Et puis là, l'événement immédiat, c'est l'annonce mardi dernier de pertes très importantes en 2022. Hein, 7,3 milliards de francs suisses. C'est quand même une somme importante, surtout que Crédit Suisse nous dit qu'il risque d'avoir des pertes à peu près équivalentes en 2023. Donc il y a un élément financier immédiat qui explique ça. Ils ont vécu un gros mouvement de retrait d'argent de la part de leurs clients à l'automne dernier. En relativement peu de temps, ça ne s'apparente pas à un bank run, mais enfin ça en a une petite odeur. Il y a 110 milliards comme ça de francs suisses qui ont quitté les dépôts. Et puis il y a aussi un élément réglementaire, c'est que à 9,8%, le Saoudien allait passer les 10%, ce qui entraîne toute une série d'obligations réglementaires supplémentaires qu'il préférait éviter. Mais c'est vrai que Crédit Suisse, la liste commence à être longue, parce que par exemple, le rapport annuel confesse des faiblesses dans les contrôles internes. Une petite phrase gentille, faiblesse dans les contrôles internes. Ils ont déjà pris des belles paumes depuis 2021, notamment auprès d'un financier britannique spécialisé sur la facturage, où là, ils ont quand même laissé 3 milliards de dollars dans l'affaire en ayant mis 10 milliards au début. Et puis la faillite d'un fonds américain, où là, Crédit Suisse a laissé 5 milliards de dollars de pertes. L'action, en 2007, elle valait 80 francs suisses à la bourse de Zurich. Hier, c'était 1,70. Elle a perdu 71% en l'espace d'un an, 91% en 10 ans. Donc c'est quand même une banque qui accumule les difficultés depuis longtemps. C'est pas l'espèce de surprise générale qui serait la conséquence directe de la faillite de l'américaine SVB. Et pourtant, et ça c'est un élément qui m'a frappé, et c'est l'un des éléments que je trouve d'ailleurs peut-être le plus gênant, elle coche toutes les cases des règles prudentielles de solvabilité et de liquidité exigées en Europe. Ouais. Normalement, on nous les a présentées comme les digues infranchissables, les normes anti-crise. Eh ben, elle coche les cases et pourtant elle se retrouve dans cette situation.
Elle serait pas sortie perdante des stress tests, quoi. Pas de lien entre les deux tempêtes bancaires, mais celle-ci, Crédit Suisse, c'est quand même, voilà, vous le rappeliez, une très grande banque. C'est une banque systémique, Crédit Suisse ?
Oui, c'est absolument une banque systémique. 45 000 salariés. Il y a 9 000 d'ailleurs suppressions de postes qui ont été annoncées à l'automne parce que la situation était compliquée. 1 300 milliards d'euros d'actifs. Contre, je vous le rappelle, 210 milliards de dollars pour SVB. Elle a vu le jour en 1856. Elle fait partie des 30 banques les plus importantes de la planète. Donc, c'est une banque too big to fail. Il n'y a aucun problème là-dessus. Autant on n'utilisera jamais l'expression too big to fail pour une entreprise normale, non financière. Autant, une fois de plus, pour une entreprise financière, ça se produit. C'est la raison pour laquelle, ça se reprend ce matin, mais c'est la raison pour laquelle, quand même, l'ensemble des établissements européens ont quand même sérieusement dévissé hier. On a eu jusqu'à plus de 12% de baisse pour la générale sur la journée d'hier. Il serait important que les autres établissements européens, eux aussi systémiques, et en France, on en a quand même quelques-uns, communiquent assez vite sur leurs liens qu'ils ont avec Crédit Suisse. On peut difficilement imaginer, alors elle n'est pas en faillite, hein, elle a juste connu un gain boursier important, on peut difficilement imaginer qu'un établissement comme celui-là n'a pas des interconnexions interbancaires avec d'autres établissements. Et puis alors là où les affaires SVB et Crédit Suisse se rejoignent, c'est que ça donne quand même l'impression d'être une partie de la facture, si vous voulez, des années d'argent gratuit. Il n'y a pas de frime.
Et
on se demande exactement ce que disait Jean-Luc Hussac, comment la BCE, du coup, va réagir. Est-ce que les banquiers centraux vont faire pause ou continuer dans leur discours de resserrement de politique monétaire dure ? Et il est vrai qu'aujourd'hui, si la BCE fait ses 50 points de base, ça va être considéré comme très violent. Si elle dit « je fais rien », ça va être considéré comme très inquiétant. Donc, moi, je vous dis, elle fera quelque chose, mais peut-être pas 50, peut-être 25 points de base. Et je termine avec Larry Fink, le patron de BlackRock, rapidos. La plus puissante remontée des taux depuis 80 devait faire apparaître les fragilités du système financier. Les incompatibilités entre l'actif et le passif devaient voir le jour. Après des années d'argent gratuit, les gérants ont grossi leurs expositions à des investissements illiquides, mais rentables. Quand vous êtes illiquide, c'est la crise de liquidité. Et la crise de liquidité, c'est ce qui vous emmène au tapis. Mais c'est généralement aussi ce risque-là que les banquiers centraux couvrent.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Tout de suite, on s'intéresse au monde du vin.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille donc Franck Noguès. Bonjour Franck.
Bonjour Cédric.
Fondateur de PatriWine. Et on va faire rimer vin et réchauffement climatique, c'est un peu obligatoire. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ce réchauffement climatique ?
Alors dans un climat déjà plus apaisé, hein, parce que en suivant vos émissions, voilà, l'actualité économique est chargée, l'actualité politique est chargée, l'actualité financière est chargée. Et là, on se repose dans le monde du vin, voilà, sous des aspects plus tranquilles. Hein. Donc au niveau du, parce qu'on entend parler effectivement du réchauffement climatique, on s'aperçoit que déjà la vigne existe depuis 11 000 années. Hein. C'est une plante essentiellement méditerranéenne. Donc elle a déjà eu l'habitude de résister à des climats plus chauds et plus secs. Et donc on va voir que les vignerons, puisque c'est avant tout un phénomène agricole, les vignerons sont à la fois responsables et travaillent la vigne afin de cultiver cette excellence.
Justement, quelles actions ces professionnels peuvent mener pour limiter l'impact de ce réchauffement ?
Alors, il y a plusieurs actions. Il y a tout d'abord le travail de la vigne, hein, sur laquelle les chefs de les chefs de culture ont la possibilité de laisser davantage de feuilles pour protéger le raisin et d'avoir moins de raisins afin de diminuer le degré alcoolique. On a ensuite des éléments beaucoup plus techniques, c'est-à-dire que dans le Bordelais, on va conseiller davantage de replanter un cépage déjà bien connu qui s'appelle le Cabernet Sauvignon, mais qui représente aujourd'hui que 22,5% de la vigne dans le Bordelais, contre plus de 60% pour le Merlot. Et le Cabernet Sauvignon a besoin de mûrir davantage, donc ça tombe très bien par rapport à cette évolution des températures. Et le Cabernet Sauvignon a aussi la force d'avoir un degré alcoolique moins élevé. Alors, c'est pas du tout une régression qualitative, bien au contraire, puisque 4 des 5 grands premiers crus classés, Margaux, Lafite Rothschild, Mouton Rothschild et Latour, ont plus de 50% de Cabernet Sauvignon dans leurs allocations.
Qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité ?
Alors, on a vu qu'on a la date des vendanges. Hein. Forcément, on s'aperçoit que la date des vendanges, elle, est de plus en plus précoce. Cette année, dans le Bordelais, on a ramassé les blancs à partir du 15 août. Et pour la première fois, on a ramassé les rouges le fin août, le 30 août. Donc c'est absolument, absolument exceptionnel.
Et donc cette date de vendange, elle a vraiment une importance ?
Ben oui, parce qu'on ramasse le raisin quand il est mûr.
Oui.
On discutait justement avec des responsables de grands châteaux. Ils nous expliquaient qu'ils goûtaient le raisin grain par grain, rang par rang, et pour le récolter en fonction de l'optimisation du mûrissement. Donc, quand le raisin est mûr, ben, on le récolte avec un degré de maturité satisfaisant pour faire ses grands vins.
Alors, vous nous avez pas mal parlé de ce qui s'était passé cet été, et du coup, ce millésime ?
Ah ben, magnifique. Parce qu'en fait, les baies se sont préparées compte tenu de cette chaleur précoce avec des peaux très épaisses. Compte tenu, on n'a pas eu de stress hydrique parce que les sols ont maintenu de l'eau. Et on a donc des petites baies très concentrées avec un couple tanin anthocyane qui est très élevé, ce qui fait la qualité d'un grand vin. Donc on annonce un millésime 2022 avec forcément une plus petite production par rapport à ce manque d'eau, mais pas de stress hydrique, mais avec une qualité très importante, comparée peut-être, on n'a pas encore goûté, on attend ça impatiemment à partir du 25 avril pour la semaine des primeurs, mais on a tendance, par rapport aux éléments techniques, à le comparer déjà avec 2005, qui était un très grand cru.
Et on a une idée des perspectives qui, parce que là, on commence à bien travailler dans le vignoble.
Alors, des perspectives pour 2023 ? Pas encore, parce que l'année dernière, on a une floraison à partir du 16 mai. Donc, c'est vraiment la floraison qui va donner le top départ pour 2023. Aujourd'hui, voilà, on sait que 2022 sera un très bon millésime. On voit une appétence très forte au niveau des professionnels du vin dans le monde. Vinexpo Paris a fermé ses portes avec plus de 42% de progression de visiteurs par rapport à 2022, plus 85% d'étrangers. Donc on voit que la réouverture des frontières amène tout de suite les professionnels du vin à revenir en France. Le Vinexpo New York vient de se fermer aussi. Alors c'est plus confidentiel, mais avec une progression de 28% des visiteurs. Et la semaine prochaine, on a The Big Salon en Allemagne, ProWine, qui rassemble 65 000 professionnels du vin. Donc on voit que la dynamique est en cours.
Merci beaucoup Franck Noguès et PatriWine qui nous accompagnaient ce matin sur ce monde du vin, avec toujours ces perspectives d'investissement. À très bientôt.
À bientôt.
Et tout de suite, on jette un œil sur les marchés.
Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Le marché parisien qui grimpe pour le moment, bon ça peut-être un petit peu plus limité qu'au début de la séance, mais on reprend tout de même 0,45%, pardon, toujours sous les 7000 points, 6916 points. Ailleurs en Europe, on est un petit peu plus net dans le vert, plus 0,65%. Ça va mieux sur les financières de l'AXA, du BNP Paribas, parmi les plus fortes hausses du marché. L'eurodoll est à 1,0613.
BFM Business, BFM Patrimoine, sur le grill.
L'intelligence artificielle peut-elle être considérée comme un secteur d'activité responsable? Quelles sont les pistes ou les opportunités à saisir si vous êtes intéressé pour investir dans ce segment? Autant de questions qu'on va trancher avec Julie Connerton. Bonjour Julie.
Bonjour Cédric.
Commençons par peut-être poser les bases. Quand on parle d'intelligence artificielle verte, on parle de quoi exactement?
Alors, vous savez, Cédric, hein, il est de mon devoir en tant que journaliste de vous éclairer à ce sujet. Mais une fois n'est pas coutume, je me suis permise de demander à la principale intéressée, c'est-à-dire ChatGPT que l'on ne présente plus. Je lui ai demandé si une intelligence artificielle pouvait être respectueuse de l'environnement. Et voici un résumé parce que, bon, ChatGPT, elle est un petit peu prolixe. Ce qu'elle m'a répondu, l'intelligence artificielle a le potentiel de contribuer à la durabilité environnementale en optimisant l'utilisation des ressources, en réduisant les déchets et en améliorant l'efficacité énergétique. Cependant, l'impact environnemental de l'IA n'est pas tout à fait clair et dépend de la manière dont elle est développée, déployée et utilisée.
Bon, elle se trouve très bien donc, cette intelligence artificielle, vous validez ?
Alors, disons que ChatGPT a le don d'être lucide, mais qu'elle est peut-être un petit peu optimiste. Pourquoi ? Déjà parce que sur le papier, quand on parle d'intelligence artificielle responsable, on parle de modèles d'intelligence artificielle plus durables qui ont pour but de maximiser l'efficacité de ce qu'on appelle le machine et le deep learning sans nuire à l'environnement. Alors, je vous entends déjà, hein, le machine learning, eh bien, c'est une technologie qui permet aux machines de tirer des enseignements d'après des données et de s'améliorer avec l'expérience. Le deep learning, eh bien, cela correspond à un ensemble de méthodes d'apprentissage automatique. En résumé, le deep learning, ce sont des algorithmes qui sont capables de mimer les actions du cerveau humain grâce à des réseaux de neurones artificiels.
Bon, c'est pas mal. Là, on a les données du problème, on va dire, qui sont citées. Malgré tout, on ne voit pas vraiment comment cette intelligence artificielle, Julie, pourrait permettre de contribuer à la durabilité environnementale.
Bah, je ne vous cache pas que c'est un petit peu difficile à prouver, et ce, pour une raison majeure, parce que l'énergie nécessaire à la création de modèles, à la collecte de données, ou encore à l'entraînement d'algorithmes d'intelligence artificielle, eh bien, ça a, comme de nombreuses technologies, de toute façon, une empreinte carbone. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est selon qu'une étude qui a été publiée par l'ADEME pas plus tard que la semaine dernière, donc vous le savez, hein, l'ADEME c'est l'Agence pour l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, eh bien sans action pour limiter la croissance de l'impact environnemental du numérique, l'empreinte carbone du numérique, elle pourrait tripler d'ici 2050. Et du côté de l'intelligence artificielle, certains observateurs estiment déjà l'an passé que la filière qui n'en est qu'aux prémices de ces applications, eh bien, elle représentait déjà 2,5% des émissions de gaz à effet de serre en France.
Bon, donc ça veut dire que l'intelligence artificielle n'est pas prête d'être green.
Alors c'est sûr que sur le papier, c'est pas gagné. Heureusement, comme de nombreux secteurs technologiques, les acteurs de l'intelligence artificielle savent pertinemment que l'activité dans laquelle ils s'inscrivent, elle est tout sauf responsable et qu'ils ont donc de sérieux efforts à fournir à ce sujet. D'où quelques initiatives qu'on peut quand même saluer, des initiatives comme celle qui a été publiée par la revue Nature Communication. La revue qui expliquait il y a quelques temps que des glaciologues, des climatologues ou encore des mathématiciens de l'université de Grenoble-Alpes, ils s'étaient penchés sur l'évolution de la fonte des glaciers en ayant recours à une IA qui utilisait pour la première fois des réseaux de neurones artificiels profonds pour simuler le recul à venir des glaciers qui, comme chacun sait, sont voués à disparaître du fait du réchauffement climatique.
Un autre exemple, Julie ?
Alors oui, hein, il existe par exemple des intelligences artificielles qui aident à réduire la quantité de pesticides déversés dans les champs. Il y a aussi des IA qui ont été conçues pour recenser et surveiller des espèces en voie de disparition. Ou bien encore, il y a des IA qui aident à la sauvegarde des abeilles. C'est le cas par exemple du projet Melia, développé par une agence spécialisée dans le numérique responsable. Donc très clairement, hein, quand on parle d'intelligence artificielle green, durable, verte, vertueuse, pour l'instant, c'est une ineptie, en tout cas, voilà, maintenant. Mais on peut, voilà, faut pas omettre le fait qu'il existe aujourd'hui de plus en plus d'applications de l'intelligence artificielle qui ont, elles, indéniablement une vocation qui est donc vertueuse. Des IA qui sont donc au service de l'environnement, du sol, de l'air, des océans. Et c'est donc précisément à ce titre que l'on peut dire, d'une certaine façon, que certaines intelligences artificielles peuvent être considérées comme responsables. Sans compter qu'il y a même une étude, hein, qui a été publiée par Microsoft et PwC, qui, elle, expliquait il y a peu que le recours, finalement, à l'intelligence artificielle permettrait de réduire de 4% les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2030.
Bon, si on est investisseur, Julie, comment on fait pour investir dans ce thème d'intelligence artificielle verte ?
Alors, ce qu'il faut savoir, Cédric, c'est que le marché de l'intelligence artificielle, il est colossal. Selon l'un des derniers rapports publiés par IDC, les revenus mondiaux du marché de l'IA, ils ont atteint 383 milliards de dollars en 2021. Ça correspond ni plus ni moins à une hausse de 20,7% par rapport à 2020. Et selon ce même rapport, le marché de l'intelligence artificielle, il serait estimé à 450 milliards de dollars. Et quant au taux de croissance, il devrait se maintenir dans les années à venir. C'est donc pour les investisseurs, un marché qui a clairement du potentiel, un thème d'investissement à observer de près et sur lequel il peut donc être intéressant de se positionner.
Et on les trouve en bourse ?
Alors, si vous allez du côté des valeurs cotées, hein, vous aurez certes la possibilité de trouver de nombreux mastodontes, hein, qui utilisent l'IA dans leurs projets. C'est le cas des Américains Apple et AMD, du Chinois Baidu ou encore du Néerlandais ASML. Mais on ne peut pas dire que leurs applications d'intelligence artificielle soient particulièrement responsables. À la rigueur, hein, ce que vous pouvez faire en tant qu'investisseur, c'est miser sur le crowdfunding pour soutenir des initiatives vertueuses. Sauf que inversement, pour le coup, ces projets, si verts et durables soient-ils, eh ben, ils n'ont, eux, pas forcément recours à une intelligence artificielle pour se développer. Le résultat des courses pour les investisseurs, c'est qu'il n'est pas évident de s'y retrouver pour investir dans une IA qui serait véritablement responsable.
Bon, donc, investir dans une IA verte, c'est pas pour tout de suite.
Alors, disons que la grande question, c'est absolument pas de savoir si la révolution économique, sociale et éthique liée à l'intelligence artificielle aura lieu. Elle a lieu. La grande question, c'est avant tout de réussir à anticiper la manière dont les entreprises et les investisseurs vont appréhender ce changement pour en tirer profit. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est quand même que l'IA ne peut pas aujourd'hui être considérée comme la solution qui va rendre le monde plus vert. Elle sera certes un outil indispensable pour permettre à nos sociétés d'apporter des solutions adaptées aux diverses problématiques liées au changement climatique. Mais la capacité de l'intelligence artificielle à agir en faveur de l'environnement, eh bien, elle va surtout dépendre de l'intérêt que les différents acteurs étatiques et industriels lui accorderont.
Merci beaucoup, Julie.
Julie
Cohen-Horton qui s'était penchée là-dessus, et nul doute que les différentes étapes de ces intelligences artificielles progresseront. On suivra tout ça. En tout cas, si vous avez suivi un peu les réseaux, vous avez dû apercevoir la quatrième version de GPT-4 qui semble faire des étincelles, de quoi mettre ce sujet à la une de pas mal de médias. Dans un instant, un détour sur les marchés, puis l'œil du stratège à suivre.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.